Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de réécouter une émission que nous avions diffusée le 19 janvier dernier. Émission dans laquelle nous nous étions arrêtés sur le cadre de vie ou de travail, ces espaces clos où nous passons l'essentiel de nos journées, logements, salles de classe, bureaux, ateliers ou même usines, tous ces intérieurs où l'on respire un air parfois chargé de poussière, de moisissures et de composants chimiques. Des agents qui nous agressent à notre insu, pollution insidieuse, quotidienne, avec aussi le chauffage au bois, la cuisinière ou certains produits d'entretien, sans parler des matériaux de construction ou de décoration. Toxicité avérée ou accumulation dangereuse, comment prévenir les risques d'atteintes respiratoires et améliorer son cadre de vie si l'on constate ce type de problème? Et comme la première des pollutions, c'est d'abord celle de l'air que nous respirons, aujourd'hui dans Priorité Santé, on vous invite à ouvrir grand les fenêtres. S'informer pour limiter les risques d'un habitat pollué, c'est ce que l'on va donc faire pendant toute cette émission en compagnie de notre invité, le docteur Bernard Pijarias, pneumologue et allergologue, secrétaire général chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française, qui était en direct de Nice, dans les studios de nos confrères de France Bleu Azur. Tout à l'heure, nous allons retrouver au Burkina Faso le professeur Martial Ouedraogo, pneumologue et allergologue, qui dirige le service de pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Et nous demanderons aussi son éclairage à Charlotte Songeur, ingénieure à Air Parif, l'organisme qui surveille la qualité de l'air en région parisienne. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Je le disais il y a un instant, ouvrir grand les fenêtres pour mieux respirer chez soi. Pas toute la journée, quand c'est possible, bien sûr, parce que aujourd'hui beaucoup de bureaux sont climatisés, impossible donc d'ouvrir ces fameuses fenêtres. Mais c'est en fait très sérieux, aérer régulièrement son intérieur, c'est un geste important, très important, c'est même un geste vital.
C'est absolument fondamental. Vous abordez quelque chose d'important, c'est la climatisation. C'est-à-dire, on s'enferme pour se climatiser. Mais rappelons les mots. Climat, c'est quel climat? C'est sous quel climat que nous voulons être conditionné en matière d'air. Le terme est faux. Il faudrait dire air conditionné sous un climat. Alors, on va dire, sous-entendu, non tropical dans ce cas, qui serait tempéré. Voyez un petit peu la dérive des mots, Ça, c'est fondamental. Alors, on s'enferme et on va faire de l'air conditionné. Cet air doit être purifié et doit être non saturé en vapeur d'eau comme ça serait le cas dans des sociétés comme Abidjan ou comme tout le pourtour de l'Afrique subsaharienne, tropicale humide. Et donc, il nous faut retraiter cet air pour qu'il soit bon à respirer.
Alors, vous êtes allergologue, pneumologue. Comment est-ce qu'on se rend compte, justement, docteur Bernard Pijarias, que notre maison est en train de nous rendre malade?
Bien, je pense qu'il y a des signes tout simples. Et je dirais que le personnage, le patient le plus symptomatique, c'est l'asthmatique. C'est une espèce de personnage qui va avoir une hyperréactivité de la muqueuse bronchique et qui va réagir très vite à tout un tas de polluants. Et d'abord et avant tout, cette hyperréactivité bronchique peut être simplement liée à des variations thermiques et hygrométriques qui seront délétères. Puis, les autres polluants chimiques, vous les avez abordés tout à l'heure un petit peu, et tous les allergènes qui vont être encore plus contaminants.
Alors, quelles sont les atteintes, justement, ces signes? Quand est-ce qu'on sait qu'on est malade? On tousse, on respire mal, on peut même avoir des fois des atteintes ophtalmiques, mal aux yeux.
Absolument. Les premiers symptômes, c'est sûrement la rhinite et la petite conjonctivite qui est souvent liée à la rhinite, parce que quand le nez s'écoule mal, bien le liquide lacrymal s'écoule mal, donc ces deux pathologies sont associées. Donc voilà les deux principaux, ce nez qui est un petit peu le filtre, et c'est surtout le filtre principal qu'il faut savoir bien nettoyer régulièrement. Et puis également ensuite, toutes les pathologies de bronchite, infectieuses, virales, bactériennes ensuite, et bien sûr l'asthme. Et ensuite, par rapport aux gens qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive, au moment de pics de pollution particuliers, ils vont avoir des exacerbations de ces BPCO, de ces bronchopneumopathies chroniques obstructives.
Alors, les médecins, est-ce qu'ils font le lien justement entre ces maladies et le cadre de vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est parfois pointé du doigt, voire même souvent, est-ce qu'on fait des diagnostics en la matière?
Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu oublié. On a toujours et beaucoup parlé de la pollution extérieure, peu parlé de la pollution intérieure, et pourtant on y passe un bout de temps important. Que ce soit la maison, que ce soit les bureaux, mais que ce soit également les écoles, ça c'est fondamental. On pourrait presque parler de pollution intérieure s'agissant du métro, mais bon, là c'est un petit peu outré peut-être, mais enfin la pollution est fondamentale. Je crois qu'il faudrait qu'on ait de plus en plus le soutien de personnes qui s'occupent de cette aire intérieure. Ce sont des techniciens de l'environnement qui pourraient être sollicités pour évaluer ces maisons. Et la prévention se fait effectivement dès la construction.
Alors, on n'a pas cité un élément de premier plan dans cette pollution, peut-être parce qu'à force d'en parler, on l'oublie, mais on ne l'oublie pas vraiment à priorité santé. Il s'agit bien sûr du tabac. Ne pas fumer à l'intérieur, c'est vraiment une règle de base.
Ah, c'est absolument fondamental. Il faut se rappeler des chiffres qui sont toujours importants. Vous savez qu'on respire à peu près 12 000 à 30 000 litres d'air par jour, par adulte. Vous imaginez, c'est gigantesque. Et j'aime bien faire des comparaisons de chiffres, de valeurs. Un appartement de base, c'est 100 mètres carrés. Ben, c'est la surface d'échange de notre poumon. Voyez un petit peu les relations, c'est fondamental. On va avoir tout notre appartement à notre propre disposition pour faire de l'échange respiratoire. Donc si on respire 12 à 15 000 litres d'air par jour qui est pollué sans arrêt, on comprend bien les problèmes qu'il y a en face de ça.
Alors la combustion du tabac, il y a d'autres combustions qui sont montrées du doigt. D'ailleurs, nos auditeurs s'interrogent sur ce sujet. Hein. On a un message Facebook signé de Cheikh à Dakar, au Sénégal. Il demande, est-ce que la bougie peut polluer quand elle est allumée dans une pièce fermée?
C'est vrai, c'est tout le problème de ces bougies, de ces parfums intérieurs qui sont bien agréables, de l'encens, etc. Ce qu'il faut dire, c'est le mot combustion. C'est bien la différence entre une cigarette dite électronique, on ne sait pas trop ce qu'il y a d'électronique, mais enfin, où c'est une vapeur d'eau qui est rejetée, et la combustion liée au tabac. Dès qu'il y a le mot combustion, on sait qu'il va y avoir changement d'état de beaucoup de corps et beaucoup d'éléments qui seront très très toxiques pour les bronches, en particulier des dioxyde d'azote et autres irritants.
Alors, le chaud, donc, avec ces bougies, ces flammes, et puis l'humidité, vous l'avez rapidement évoqué en parlant des climats tropicaux, mais aussi sous nos latitudes. Beaucoup de gens, par exemple, font sécher le linge à l'intérieur et ce n'est pas toujours une bonne chose.
Absolument, parce que le chaleur et humidité égale acarien, pour faire court, et égale moisissure. Et ce sont des éléments extrêmement importants qui vont après stimuler les bronches, et chez des gens qui sont susceptibles de générer une allergie, ça va transformer quelque chose qui était un simple irritant à un allergène majeur, pouvant déclencher rhinite, conjonctivite et asthme, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure.
Alors vous avez parlé des moisissures, docteur Bernard Pijarias. Quel type de pathologie découle justement de l'inhalation, du fait de respirer ces moisissures?
Les moisissures, c'est un peu comme les acariens. Hein. Les acariens, c'est les micro-organismes. Acariens, ça veut dire en grec petit insecte, petit, tout petit, c'est le niveau le plus primitif, la chaîne alimentaire. Mais de l'autre côté, on a des champignons, c'est les moisissures. Et ces champignons sont très irritants. Ils peuvent aller jusqu'à des pathologies extrêmement graves, comme l'aspergillose, qui peut être très très allergisante et extrêmement grave pour donner des insuffisances respiratoires. Entre les deux, il y a simplement des crises d'asthme en particulier, ou de rhinite, qui peuvent être déclenchées par ces moisissures. La plus importante que l'on voit dans toutes les salles de bain, c'est le fameux alternaria, c'est cette espèce de trace noire qu'on trouve dans les interstices des carrelages, et ça, il faut y être très très vigilant et nettoyer.
Alors, il existe des éléments qui ne sont pas liés à l'activité des habitants, mais à la construction des maisons, des bâtiments eux-mêmes. Docteur Bernard Pijarias, dans le domaine de la santé environnementale, il existe même ce qu'on appelle le syndrome du bâtiment malsain. De quoi s'agit-il ?
Ça, on le voit souvent, et je le vois en expertise assez fréquemment, lorsque vous avez des bâtiments anciens ou des plafonds sont effondrés, on a mis un cache-misère, par exemple un faux plafond, et par derrière, c'est bourré d'acariens, bourré de moisissures, bourré de contaminants qui vont progressivement tomber, envahir à partir de ces faux plafonds, envahir l'atmosphère. C'est un petit peu ça le syndrome des bâtiments malsains, et qui est presque une pathologie professionnelle dans des bâtiments qui ont été mal réhabilités. On le voit relativement fréquemment. Ça fait un effet, je dirais, excusez-moi de faire la publicité, une plaquette Vakvona à une certaine époque, vous avez des insectes ici qui étaient fixés sur des plaquettes, et c'est un peu comme si vous aviez, avec ces plafonds et ces sous-plafonds, des relarquages de ces particules en permanence.
et aussi des fois des éléments qui entrent dans la fabrication, dans l'érection de ces bâtiments, matériaux de construction qui sont là aussi qui peuvent se révéler toxiques.
Absolument, et ça c'est toute la chimie de la construction, et en particulier des meubles qui sont des meubles collés, lamellés collés ou autres, et là vous avez un relargage d'éléments chimiques qui sont des composés organiques volatiles qui sont extrêmement toxiques. Et si on doit choisir entre un meuble en bois massif qui a 100 ans, ou même pas 100 ans, mais un bois est peu verni, et un meuble comme ça collé, eh bien il faut choisir le bois massif. Là, vous n'aurez pas de relargage de tous ces composés.
Priorité santé sur RFI.
Alors il y a l'air qu'on respire, hein, pas seulement. Parmi les matériaux concernés reconnus pour leur dangerosité, certains ont été abandonnés pour les logements neufs, comme le plomb. Un certificat, un constat de risque d'exposition au plomb, c'est difficile à dire, est obligatoire en France pour les logements construits avant 1949. Mais au-delà de cette formalité, certaines populations restent encore exposées au risque d'intoxication qui porte un nom, hein. C'est le saturnisme. Des personnes mal logées, en premier lieu les enfants qui ingèrent des petits morceaux de peinture contaminée, et même à faible dose, le plomb est très toxique pour l'organisme, pour le système nerveux, pour les reins. Et selon l'Institut national de veille sanitaire, eh bien, la prévalence du saturnisme a baissé hein, depuis ces 20 dernières années. Mais en 2013, la Fondation Abbé Pierre recensait encore 170 000 habitations en France contaminées qui hébergent des petits-enfants. Alors, docteur Bernard Pigeriès, on va vous retrouver dans quelques minutes, toujours en direct de Nice. Mais avant ça, on fait un détour par Saint-Denis, au nord de Paris. C'est là que tout neuf Mendy a rencontré Diutala. C'est le père de 4 enfants, dont Khadija. Elle a 4 ans aujourd'hui. Elle a été diagnostiquée saturnisme, a dit le docteur. C'était il y a 3 ans. La famille, avec 2 petits en bas âge, vit dans 45 mètres carrés et attend toujours de pouvoir avoir un logement digne de ce nom.
Bonjour, entrez. Je vais vous montrer les problèmes qu'on a chez nous. On commence par la salle de bain déjà. Il y a la moisure encore au niveau des tuyaux d'évacuation. Là, vous voyez au niveau du séjour côté cuisine, vous voyez au niveau des tuyaux qu'ils ont fait, d'ailleurs la colonne d'eau froide qui est installée au niveau du bâtiment, c'est une colonne à l'ancienne et qui est du plomb. Vous voyez, le plafond est fissuré. C'est un plafond qui n'est pas fait avec du béton. Donc, c'est une dalle qu'on a posée avec des poutrelles en ferraille. Je vous montre aussi dans les chambres. Voilà. Vous avez le mur. Vous voyez comment il a noirci un peu partout. Il y a la moisissure sur, au niveau des bords des fenêtres aussi, pareil. C'est ici que Khadija dort. Le mur a été refait. Il y a un an de cela, mais à chaque 3 mois, je nettoie tout pour que ça ne puisse pas salir un peu partout. Il y a le bébé qui vient naître, qui a 2 mois. Et là, je viens d'installer le lit, il y a 1 mois, le lit du bébé. Et vous voyez, juste au bout de quelques jours, il y a encore la moisissure qui est un peu partout. Même les plafonds, il y a des fissures un peu partout. Khadija, on a découvert ça, c'est en 2015.
C'était quoi ces symptômes ?
Au tout début, c'était les maux de tête. Après, c'est la diarrhée. Après, nous, on a constaté le retard de vraiment s'exprimer. Et du coup, c'est à partir de là que nous, on a réagi à voir pourquoi. Mais quand on l'emmène chez le médecin ne trouve rien. Et apparemment, après, le médecin du PMI qui nous a demandé de faire une prise de sang pour faire des analyses, pour savoir de quoi elle souffre exactement. Les médecins ont trouvé dans son sang 124 microgrammes de plomb. Au final, jusqu'à trouver de quoi ça provient, où elle est toxiquée, en tout, c'est 2 ans. Après le diagnostic, elle n'a pas suivi un traitement particulier. Le PMI prescrivait juste une ordonnance de sirop, de fer, et puis elle prenait ça matin, midi et le soir. Après, le reste, c'est que des prises de sang chaque 3 mois.
Aujourd'hui, comment va Khadija ?
Elle peut avoir mal à la tête une fois peut-être par mois ou 2 fois, c'est tout. Et les médecins, le jour d'aujourd'hui, nous disent que ça s'améliore. Donc, il y a l'espoir.
En plus des problèmes de santé de Khadija, quelles sont les autres conséquences de ce mal logement sur votre vie?
Nafi, sa petite sœur, a aussi un taux un peu plus élevé que le taux normal. Mais après, le médecin nous a dit que ça, c'est pas tellement grave par rapport au taux de Khadija. Pour Nafi, aujourd'hui, ce n'est pas encore diagnostiqué comme le saturnisme. Aujourd'hui, c'est Khadija qui a atteint de cette maladie. Mais demain, un autre enfant aussi peut atteindre à cette maladie. On a peur d'inviter les enfants d'autrui, des voisins, pour être exposés à la même situation que notre enfant. Alors donc, du coup, quand elle fête son anniversaire, on n'invite quasiment pas. Elle pleure et après on l'explique et elle se calme et dit d'accord, prochaine fois. Au niveau de la mairie, on nous a dit que nous sommes parmi les dossiers prioritaires. Ils sont au courant que notre fille est malade. Le non-logement jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris si c'est un problème de ressources ou ce n'est pas un problème de ressources. Ils n'ont jamais été clairs. Vraiment, aujourd'hui, je souffre de la maladie de ma fille. Tous les jours, je suis dans l'inquiétude et quand même je suis au travail, je ne suis pas tranquille. Et là où je suis, j'ai toujours mon esprit sur les enfants, comment les enfants sont à la maison. Donc, je demande à tous les responsables le jour d'aujourd'hui de réagir pour que mes enfants vivent dans la dignité et la paix comme toutes les autres familles.
Témoignage de Dioutala, un résident à Saint-Denis, reportage signé Tout Neuf Mendy, plomb, saturnisme, habitat malsain. On vous retrouve, docteur Bernard Pijarias. Les personnels de santé, on l'a compris, doivent être particulièrement vigilants lorsqu'ils apprennent qu'une famille, qu'un patient vit justement dans ce type de logement très précaire.
Tout à fait. C'est quelque chose qui est plus rare, évidemment, globalement en France, qui, depuis la loi de 48, depuis l'amélioration du logement, il y a beaucoup moins. Donc, il faut y penser. C'est pas simple d'y repenser. Et ce témoignage est fondamental pour ça. Rappelons juste deux petits éléments de vocabulaire. Pourquoi on l'appelle saturnisme? Eh bien, ça nous vient tout bêtement de l'alchimie, où la planète Saturne était associée au métal plomb et à la couleur grise. Et c'est pour ça qu'on parle de saturnisme, vous voyez. D'ailleurs, on retrouve ce mot de Saturne dans la journée du samedi, en français, samedi, et Saturday en anglais, vous voyez. Donc, on a toujours une espèce d'alchimie des mots qui nous poursuit. Cela étant, par rapport au plomb, il y a quelque chose de fondamental qui a changé pour toute la population et pas seulement pour les habitats. C'est la suppression du plomb dans l'essence. Faut pas l'oublier. Et ça a été complètement fondamental pour voir que la teneur en plomb dans le sang moyenne de la population a complètement chuté pour être maintenant dans des proportions de 10-20 microgrammes par litre. Et on voit progressivement les normes baisser. Et théoriquement, on devrait avoir zéro. Puisqu'il n'y a aucune raison biologique d'avoir du plomb dans le sang. Et quand la personne a absorbé du plomb, vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, par ces particules de peinture au plomb, ou quand c'était les fameux petits soldats de plomb que les enfants suçaient, eh bien on va se retrouver avec des plombémies qui vont être élevées et qui normalement devraient être à zéro, parce qu'il n'y a aucune raison biologique d'avoir du plomb. Le stockage du plomb, et c'est pour ça que c'est long pour la petite fille qu'on vient d'évoquer, se fait dans les os. Il y a des signes très particuliers de radiologie qui montrent qu'il y a une fixation du plomb, et plus le plomb va être stocké, plus le relargage du plomb dans le sang va être long. Et le seul, l'éviction et le traitement.
Et donc sortir de ce logement malsain. Docteur Bernard Pijarias, on va se retrouver d'ici quelques petites minutes pour continuer de parler des effets de la pollution intérieure, juste après une pause musicale avec Éléphant, Respire.
Respire, respire, respire. Respire, respire, respire. Respire, respire, respire. Respire, respire, respire. Si t'es blanc ou noir, si tu parles ou bas, s'il te manque une case, si tu finis pas tes phrases. Et si ta vie prend l'eau, que t'aimes pas les infos, et c'est pour toi, tout est faux, tout est relou, rien n'est beau. Parfois on se connaît, on n'oublie rien, rien n'est parfait, et c'est bien fait pour nous, on mérite, c'est tout. Parfois on se connaît, on n'oublie rien, rien n'est parfait, et c'est bien fait pour nous, on mérite. La route est longue, que parfois tu t'effondres, que souvent t'es pas dedans,
tu dis rien, t'es fainéant.
Et si tu crois un peu en toi, t'as plus d'écran, plus de choix, plus de ruisseau, l'océan, pour une tablette de l'argent.
Respire, 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 respire.
Parfois on se connaît, on n'oublie rien, rien n'est parfait, et c'est bien fait pour nous, on mérite, c'est tout.
Sur RFI. Et l'on retrouve le docteur Bernard Pijarias, toujours pour parler de la pollution intérieure. Et plusieurs organismes publics comme l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, également l'Agence de l'environnement, l'ADEME, jugent que cette pollution intérieure constitue un enjeu sanitaire majeur. C'est ce que l'on a constaté avec vous, docteur Bernard Pijarias, pneumologue, allergologue à Nice. Tout à l'heure, avant cette pause musicale, on a évoqué ces matériaux interdits. On a parlé du plomb, mais on pense aussi à l'amiante, isolant thermique anti-feu, interdit depuis 1997, mais toujours bien là, encore dans certains bâtiments, d'où un diagnostic immobilier obligatoire, encore aujourd'hui, pour tous les logements en France. Alors, 20 ans après cette interdiction, docteur Pijarias, l'amiante tue encore celles et ceux qui ont été soumis à une exposition prolongée.
Absolument, ça a été un problème de santé publique majeur, ça le reste un petit peu moins parce qu'effectivement les mesures ont été prises, mais comme le délai de réaction de l'organisme par rapport à l'incursion des fibres d'amiante est très long, on va se retrouver avec un risque qui entraîne des mésothéliomes, c'est-à-dire des cancers de la plèvre, et qui peut être extrêmement majeur et quelquefois 30, 40, 50 ans après. Donc il faut le savoir, et il y a toute une structure qui s'occupe de ça en France pour prendre en charge ces personnes-là. Heureusement, on a arrêté cela, mais il y a encore un peu d'amiante qui existe encore, et on l'a vu qu'il y en avait dans les plaquettes de frein. Tout ça, ça évolue, mais un petit peu lentement, un petit peu trop lentement.
Alors, il y a un polluant bien particulier dont on va parler maintenant, docteur Pijarias. Il s'agit du radon, et c'est un gaz naturel qui est dangereux.
Tout à fait. Et il y a des régions qui sont plus riches en radon naturellement aussi. Donc c'est évident qu'il faut s'en prémunir. Et là, rien n'est simple. Rien n'est simple. Et je dirais que l'élément essentiel, ça sera encore la ventilation et l'aération. Et c'est vrai qu'il y a des pays comme le Québec qui sont très très sensibilisés à ça. Et ils s'en occupent de façon tout à fait majeure. Là aussi, éviction et puis surtout donc ventilation des locaux.
Et des fois des travaux pour isoler le sol, pour éviter ces remontées de gaz, avec donc des régions plus touchées que d'autres. En France, on cite par exemple l'Auvergne, le Limousin, la Franche-Comté, la Corse et la Bretagne. Et d'ailleurs, une partie aussi de la Côte d'Azur, là où vous vous trouvez, docteur Pijarias. On va prendre un auditeur en ligne tout de suite. Cet auditeur, c'est Jean-Louis. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bissau, en Guinée-Bissau, et vous aviez une question à poser au docteur Bernard Pijarias. On vous écoute.
Oui, en fait, c'était deux questions par rapport à ce sujet. La première est la suivante. Quelles sont les vraies conséquences négatives des fumées pour la santé des personnes qui préparent le repas au feu en bois. La deuxième, est-ce que les conséquences sont les mêmes pour ceux qui fument du tabac, par exemple la cigarette?
Alors l'inhalation de fumée lorsque l'on prépare la cuisine est puis complètement différent lorsque l'on fume. Votre réponse, docteur Bernard Pijarias?
Eh bien, la réponse, c'est que c'est vrai et que c'est grave dans les deux cas. Et ça, c'est toute la problématique de la cuisine dans ces pays. Pas que, parce qu'il y a des modes maintenant, même aux États-Unis, on reprend les canons, si je peux dire, on reprend le feu de bois. Et surtout, le problème, c'est le feu de bois à l'intérieur et le feu de bois que la personne, que la mère, en général, la femme au foyer, c'est le cas de le dire pour le coup, va inhaler directement. C'est la même problématique, il faut pas l'oublier. Et les bronchopneumopathies chroniques obstructives liées au feu de bois en Afrique posent le même problème que le tabac. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de BPC. Cette fameuse BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, chez la femme, elle directement en Afrique, liée au feu de bois et donc au brûlage de produits organiques, que ce soit le bois d'ailleurs, ou les bousses de vache, ou des éléments comme ça. Donc dans les deux cas, il faut l'éviter. Je sais bien que c'est pas facile, mais il y a des façons relativement simples pour gérer ça en Afrique, j'interviens souvent dans ces domaines-là, c'est de créer des petits foyers qui sont fermés avec simplement une cheminée, un tuyau pour évacuer la fumée, c'est tout. Mais il faut être très vigilant pour ça. Autant on peut faire une campagne anti-tabac, autant il faut faire attention à faire des bonnes campagnes et des bonnes propositions pour la cuisine qui soit une cuisine beaucoup plus saine, sans fumée.
Alors vous restez avec nous, hein, docteur Bernard Pijarias. Merci beaucoup Jean-Louis de cet appel de Bissau. Et on va partir maintenant pour le Burkina Faso. Précisément pour Ouagadougou, où nous retrouvons l'un de vos confrères que vous connaissez bien, professeur Martial Ouédraogo. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Paré.
Vous êtes
bonjour, docteur Pivilla aussi.
Vous êtes pneumologue, allergologue, chef de service de pneumologie au CHU Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou. Alors, oui. Problème de confinement dans les maisons, on vient de l'évoquer rapidement avec notre auditeur de Bissau, professeur Ouédraogo. C'est une question clé, hein, ce qui se passe autour du foyer dans les maisons africaines, la cuisine au bois en intérieur et puis parfois même d'autres combustibles pour faire à manger, dans d'autres cas pour l'énergie dans la maison quand il n'y a pas l'électricité, quand il n'y a pas l'électricité courante.
Oui, oui, absolument. Absolument. En réalité, nous avons plusieurs types de polluants dans nos conditions. Hein. Il y a d'abord les polluants classiques que le docteur Pijarias a évoqués, tels que les acariens et les poils de chien et majestueux. Mais à côté, il y a effectivement des polluants qui sont liés à nos habitudes de mode de vie, tels que les spirales et les insecticides, d'ailleurs, celles qu'on utilise pour, contre les moustiques, les mouches, etc. Il y a les désodorisants qu'on utilise là, traditionnellement en Afrique, comme l'encens. Et même le véritable problème reste la fumée de la combustion du bois de chauffe, hein, qui se passe souvent et donc dans des conditions très confinées et qui pose des problèmes, notamment pour les femmes. Qui préparent avec ce combustible-là, mais également souvent les petits-enfants qui sont à leur côté.
Et qui peuvent, par exemple, favoriser la survenue de pneumonie chez les tout-petits.
Mais oui, absolument. Ça peut favoriser, vous savez que les moyens de défense des enfants ne sont pas aussi matures que les moyens de défense de l'adulte. Donc effectivement, plus tôt ils sont exposés, et plus vite ils développeront des complications et donc dans les infections.
Il faut aussi donc penser à ces fumées, penser également, professeur Martial Ouédraogo, à tout ce qui peut entraîner, générer des moisissures dans la maison.
Ben oui, absolument. Vous savez que très souvent, nos maisons ressemblent un tout petit peu à pratiquement des magasins, hein, où on trouve un peu de tout, on trouve des moquettes, on trouve des provisions, on trouve des vieux vêtements, on trouve et tout ça dans une ambiance assez confinée. Donc c'est vrai que c'est des conditions idéales pour donc avoir des risques respiratoires.
Avec des risques allergiques justement, comment les manifestations allergiques, professeur Ouédraogo, sont-elles prises en charge au Burkina Faso?
Alors, vous savez que lorsqu'on parle de problèmes allergiques, il y a la maladie allergique et il y a le terrain allergique. Donc, il y a d'une part donc la prise en charge de la maladie allergique. Par exemple, quand vous avez de l'âne, il y a le fait de prendre en charge votre âne. Et donc, il y a des anti-asthmatiques qu'on utilise, des bronchodilatateurs, des corticoïdes, etc. en fonction de l'âne. Mais il y a également la prise en charge du terrain allergique sur lequel donc survient l'âne. Et la première mesure, c'est de faire la preuve de l'allergène qui est en cause, c'est-à-dire la substance qui déclenche l'asthme. Et en ce moment, la première mesure, c'est donc son éviction, c'est-à-dire donc séparer donc le malade de son allergène. Et à côté, il y a bien d'autres médicaments qu'on peut utiliser, et donc pour dans ce qu'on appelle des antihistaminiques, et lorsque l'éviction n'est pas possible.
Et combien comptez-vous de spécialistes en allergologie, en pneumologie au Burkina?
Ben, en exercice, nous sommes 13 pneumologues. Donc, malheureusement, sur les 13, nous avons seulement 3 allergologues. Donc, un allergologue à Bobo-Dioulasso, je ne sais pas si vous connaissez le Burkina, c'est pratiquement la deuxième ville du Burkina, et les 2 autres allergologues sont dans la capitale.
Merci infiniment, professeur Martial Ouédraogo. Merci d'avoir été en ligne de Ouagadougou, où vous travaillez donc au CHU Yelgado Ouédraogo. Docteur Bernard Pijarias, la question de la combustion du bois dans la maison, c'est une problématique sans frontières. L'OMS estime que 3 milliards de personnes font la cuisine, chauffent leur logement à l'aide de foyers, de poêles intérieurs, avec donc ces fines particules de suie qui pénètrent en profondeur les poumons.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment un problème et je pense que c'est la technologie qui nous permettra d'évoluer vers d'autres solutions. Au moins, l'avantage du bois, c'est que c'est pas fossile. Donc, du point de vue de l'équation CO2, le CO2 qu'on relargue, c'est du carbone de l'air quaternaire. Donc, je vais donner le côté positif. Le côté négatif, c'est la microparticule. C'est qu'effectivement, on va relarguer dans ces fumées, ces microparticules. Alors, tout ça, ça peut se gérer en gérant bien au niveau de la technologie, des filtres de cheminée, des inserts, tout un tas d'éléments que progressivement la loi va imposer dans nos pays, mais c'est la seule solution. Et l'autre solution, c'est un passage à une autre forme d'énergie, mais pour faire de la cuisine, pour cuire donc, il faut de la chaleur. Donc il faut bien trouver la solution.
Et on va retrouver en ligne Charlotte Songeur, elle est ingénieure Air Paris. Là, on revient en région parisienne, on va reparler de la pollution. Air Paris, d'habitude, s'occupe plutôt de pollution extérieure, pollution atmosphérique. C'est en effet l'association qui surveille dans la région de la capitale la qualité de l'air, avec ces fameuses alertes pour plutôt garder la voiture à la maison ou limiter l'exercice physique en extérieur. Mais Charlotte Songeur, votre organisme s'intéresse aussi à la qualité de l'air intérieur. Alors, aérer toujours ce fameux conseil, mais ça peut paraître bizarre hein, quand l'air dans les rues de Paris, quand cet air est devenu irrespirable. Est-ce que ça vaut quand même le coup d'aérer son logement?
Oui, bonjour déjà. Et pour l'aération de son logement, en fait, la pollution de l'air intérieur, elle va venir d'abord de l'extérieur, à laquelle va s'ajouter la pollution intérieure. Donc dans tous les cas, aérer son logement, c'est une bonne chose. Il y a des moments propices pour ça, tôt le matin ou plus tard le soir, avant les heures de pointe du matin ou après les heures de pointe du soir, pour vraiment renouveler l'air intérieur, parce que de toute manière, il va venir de l'extérieur, donc autant profiter des meilleurs moments de la journée pour bien aérer son logement et repartir à plat avec la pollution intérieure.
Et est-ce qu'il y a aussi des conseils très concrets pour justement limiter la contamination de l'air à l'intérieur de la maison?
Pour ce qui va venir de l'air extérieur, juste aéré, on ne va pas pouvoir filtrer l'air qui va venir de l'extérieur. Donc ça, de toute manière, on aura cette part d'air extérieur. Pour l'air intérieur, il y a plein de solutions qui vont exister. Donc l'aération, c'est ce qu'on a dit. Vraiment faire attention à ces produits d'entretien. Pendant ces travaux aussi aérés, pendant qu'on cuisine aussi, on va aérer. Mais il y a aussi des solutions sur ce que nous, on va émettre à l'intérieur. Il y a l'habitation, donc les produits, les colles, les peintures, tout ce qu'on utilise à l'intérieur, mais aussi nos comportements sur comment on fait la cuisine, comment on fait nos travaux, quels produits d'entretien on va utiliser. Il y avait l'exemple du chauffage au bois juste avant. Le chauffage au bois, ça peut être très bien pour le réchauffement climatique sur du long terme, c'est quelque chose de très positif, mais si on brûle bien une cheminée ouverte, ça va nous contaminer autant qu'une voiture qui va rouler pendant 4000 km. Donc on voit bien que la problématique bois à l'intérieur est aussi très problématique pour notre santé. Donc des solutions existent, des cheminées flammes vertes, les dernières cheminées haute performance qui vont permettre déjà d'avoir une meilleure source d'énergie, une meilleure économie, mais en plus permettre d'avoir une meilleure qualité de l'air, intérieur comme extérieur.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Charlotte Songeur, ingénieure à Air Paris, hein, parce que dans la maison, l'air est 5 à 10 fois plus pollué que ce que l'on respire à l'extérieur. C'est une étude nationale de l'Observatoire de la qualité de l'air menée dans pratiquement 500 maisons réparties sur tout le territoire l'an passé. Docteur Bernard Pijarias, on entend parler de différents systèmes, on entend même parler de plantes dépolluantes. De quoi s'agit-il et est-ce que c'est vraiment sérieux ?
Là, j'avoue que un tout petit peu mon ignorance des plantes dépolluantes, pourquoi pas. Je pense que tout ce qui est plante à l'intérieur va capter effectivement le CO2, c'est déjà pas mal. Hein. Mmh. Mais après, pour dépolluer des particules, ça me paraît peut-être difficile. Je vais avouer mon ignorance dans ce cas. Je ne vois pas de plantes qui vont récupérer les particules. La seule plante mécanique que je verrais, c'est une VMC bien organisée, avec une filtration de l'air extérieur, comme on fait une bonne filtration de l'air pour nos voitures, pour éviter d'importer à l'intérieur des particules. Ça, c'est la nouvelle technologie dans les grands bâtiments.
Et justement, vous me permettez de faire un relais avec cet auditeur qui nous appelle de la région parisienne, de l'Oise. Mauriac, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour, bonjour docteur.
Et vous
bonjour.
Vouliez apporter votre témoignage, on vous écoute.
Aujourd'hui, mon témoignage, c'était je travaille pour un bailleur social dans les équipements, donc je m'occupe de tout ce qui est ventilation. Mmh. Et mon constat, c'est que quand on a environ 80% des locataires, quand on consulte, on fait des visites dans leur maison, ils bouchent les entrées d'air. Parce qu'aujourd'hui, nous mécanisons pour la plupart les ventilations des logements. Et on a du mal à faire comprendre aux locataires de ne pas boucher les entrées d'air, en fait. Et aujourd'hui, moi, quand je fais le ratio, nous, on a environ 40 000 logements. Et qu'on se retrouve avec environ 85% de nos locataires où les problématiques sont toujours les mêmes. Ils ont trop froid. Il y a l'air frais qui rentre, donc ils bouchent les entrées d'air. Alors, je n'imagine pas les autres. Et aujourd'hui, donc, mon témoignage, c'était vraiment de vulgariser, de sensibiliser la population que vraiment les entrées d'air ne sont pas les bouchons. Voilà.
Merci beaucoup, Mauriac, pour votre appel et ce témoignage en région parisienne. On l'a dit depuis le début de l'émission, aérer, c'est bien, mais évidemment, lorsqu'on a une évacuation d'air, il y a même une réglementation par rapport au VMC, justement, pour que l'air soit sain dans la maison. Docteur Bernard Pijarias, c'est essentiel de laisser l'air circuler, même s'il y a des courants d'air, c'est plutôt bon signe.
Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que pour les VMC, effectivement, ce témoignage est remarquable parce que on va pas quand même fermer les ouvertures, mais il faut c'est les VMC double flux qui évitent la perte en calories, c'est surtout ça. Si on fait une VMC double flux à ce moment-là, on va rejeter un air, on va filtrer l'air intérieur et récupérer les calories. Donc avec les technologies actuelles, je pense qu'on peut régler tous ces problèmes.
Alors il y a
C'est un coût.
Il y a aussi tout un essor d'un marché justement. On parlait brièvement des plantes, là c'est naturel, des appareils, là la technologie justement à la rescousse de cette pollution intérieure, des purificateurs, capteurs de polluants intérieurs, c'est un nouveau marché. Est-ce que vous avez un avis, docteur Bernard Pijarias, sur ces installations ?
Je pense que c'est pas mal. Après, il faut voir les caractéristiques techniques qu'ils ont proposées, puisqu'on a l'expérience depuis très très longtemps dans les chambres blanches pour les satellites, par exemple. Et toute cette technologie est issue de ça. Donc si les filtres qui sont proposés de ces traitements ont une technologie, une caractéristique technique précise, maintenant les normes sont suffisamment précises pour que ce qu'ils affichent soit vrai. Donc je crois qu'il faut vraiment lire la notice, prendre le bon appareil, mais ces filtres EPA, puisqu'ils s'appellent comme ça, sont extrêmement efficaces. Il n'y a aucun doute à cela. On a l'expérience des satellites, il faut le savoir.
En revanche, beaucoup plus de scepticisme dans la littérature médicale, la littérature spécialisée, au sujet des produits vendus comme purifiant l'air.
Ah oui, ça c'est bien sûr, parce que si vous prenez un produit comme une essence, une huile essentielle, une essence, on l'a vu tout à l'heure avec l'encens, si vous mettez quelque chose qui va être irritant pour les bronches, ça peut être agréable, attention, mais il faut pas oublier que quelqu'un qui est hyper réactiviste au niveau de ses bronches peut très bien faire déclencher une crise d'asthme avec une huile essentielle un petit peu trop forte. Tout est question de mesure, je pense, dans cette affaire-là. Et dès qu'on touche à l'écologie, il faut rappeler les termes, oikos logos, c'est la science de la maison, on touche à l'essentiel, on touche au cœur des personnes. Donc tout le monde a une idée sur l'éducation, tout le monde a une idée sur la médecine et les soins, et tout le monde a encore plus une idée sur l'écologie. C'est pour ça que c'est toujours très sensible.
Avec justement cet environnement, ce lien entre l'environnement et la santé, tous ces produits qui peuvent même aller au-delà, hein, avec des composantes chimiques, avec des effets sur les hormones, des perturbateurs endocriniens. Donc, restez toujours vigilants en termes d'habitat, en termes de cadre de vie pour ceux qui nous entourent sur ces choses qu'on peut apporter à la maison et qui peuvent se révéler préjudiciables. On a peu parlé des produits ménagers. C'est important parce qu'il y a certains mélanges, là encore, qui peuvent se révéler très toxiques.
Tout à fait, je crois qu'il faut être simple. Hein. Quand j'étais en Afrique pendant 10 ans, j'utilisais essentiellement du savon de Marseille, vous voyez. Et nettoyage à l'eau et avec une serpillière mouillée pour pas faire voler la poussière. Je pense qu'il faut faire très très attention effectivement à tous ces produits blanchiment qui blanchissent trop vite, ils ne peuvent pas être autre chose que toxiques. Donc soyons simples. Pour laver, il faut de l'eau. Donc on lave avec de l'eau. Bien sûr, dans les pays où il y a moins d'eau, faut savoir l'économiser. Mais à ce moment-là, pour relever la poussière dans une maison, un linge un tout petit peu mouillé suffit, ou encore des aspirations centralisées dans des maisons plus modernes. Et évidemment, les aspirateurs électromagnétiques peuvent être utiles. Vous voyez, ça c'est tout un tas de technologies qui vont complètement bouleverser la donne. Bien sûr, la transition technologique pose problème dans les pays où il y a moins de revenus.
Merci beaucoup, docteur Bernard Pijarias. On a bien retenu ces conseils essentiels pour améliorer la qualité de l'air intérieur, limiter les émissions à l'intérieur du lieu de vie, garder le logement au sec, le ventiler, laisser les bouches d'extraction d'air libre, comme on l'a entendu avec cet auditeur, pas d'obstruction, nettoyer aussi ces bouches d'extraction. Merci d'avoir été en direct de Nice, où vous êtes pneumologue et allergologue. Nice, où nos confrères de France Bleu Azur ont eu la gentillesse de vous accueillir. On les en remercie encore. Docteur Bernard Pijarias, secrétaire général chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. Et on l'a entendu, un amoureux du français. Vous avez d'ailleurs signé à ce sujet deux ouvrages, La francophonie dans ses mots, deux tomes parus aux éditions Glyph.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour docteur Jean-Marc Sen.
Bonjour Caroline.
Alors médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, exceptionnellement hein, aujourd'hui au téléphone, on n'a pas le plaisir de vous avoir à côté de nous en studio, ça ne va pas nous empêcher de parler sport et santé. Et vous allez nous parler d'une affection du coude assez fréquente, hein. Il s'agit de la tendinite, on l'appelle aussi tennis elbow. Alors Jean-Marc Sen, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un tennis elbow et comment le reconnaître ?
En effet, Caroline, le tennis elbow, c'est une douleur du coude hein, qui est très fréquente. C'est 1 à 3% des adultes hein, qui auront au moins une fois dans leur vie cette douleur. Alors, au départ, ça a été décrit chez les joueurs de tennis, hein, d'où le nom tennis elbow. Et puis, mais en fait, en termes de fréquence, ça touche surtout les professionnels hein, qui effectuent des tâches répétitives ou bien les personnes qui font beaucoup de bricolage. Alors, c'est une douleur qui se situe au niveau d'un petit relief osseux à la face externe du coude. Hein, on appelle ça l'épicondyle. Et on a une douleur qui évolue de façon aiguë ou chronique et qui peut diffuser jusque toute la face externe de l'avant-bras. Et là, à l'origine de tout ça, c'est des petites déchirures de tendon, du tendon qui s'insère sur ce relief osseux. Alors, au début, on a mal lorsqu'on joue au tennis, par exemple, et puis petit à petit, la douleur augmente et devient gênante. Pour devenir, dans la vie courante, gêner la personne, serrer une main, déboucher une bouteille, ouvrir une porte devient vite intolérable.
Alors, quelles sont justement ces activités qui peuvent provoquer, causer ce tennis elbow ?
Eh ben, ça, Caroline, ça survient toujours après une sollicitation importante ou répétée du bras. Hein, parce que c'est les muscles et les tendons, là, contrôlent les mouvements de la main et du poignet. Alors, le fait de tenir vigoureusement une raquette, faire des flexions répétées du poignet, des gestes saccadés, va provoquer ce tennis elbow. Alors, on dit souvent que c'est la tendinite du mauvais geste, du mauvais tennisman. Mais même chez un bon joueur, quelquefois, il y a des circonstances hein, qui peuvent favoriser son apparition. Par exemple, le fait de changer de raquette, de cordage, de surface peut favoriser cela, ou encore parce que en plus de faire du tennis, la personne a fait des travaux ménagers ou a pris certains médicaments qui fragilisent les tendons, et bien ce tennis elbow va apparaître. Chez le professionnel, d'une manière générale, c'est parce que le professionnel n'a pas eu le temps de récupérer après des travaux répétitifs. Hein, s'il n'y a pas suffisamment de temps de repos. Et puis quelquefois aussi le fait de travailler au froid hein, peut favoriser cela, ou alors d'être exposé à des vibrations. Typiquement, hein, le fait d'utiliser un marteau, avoir une frappe énergique, va voire favoriser l'apparition de ce tennis elbow.
Alors après les facteurs, la solution, comment ça se soigne, docteur Jean-Marc Sen, un tennis elbow ?
Eh bien, Caroline, pour réduire les symptômes, déjà on peut appliquer une poche de froid. Alors il faut bien protéger la peau, hein, mettre un petit linge, appliquer un sac de glace par exemple, pour pas brûler cette peau, et puis alors aussi utiliser une pommade décontracturante hein, pour relâcher un petit peu les muscles, et puis bien identifier surtout les gestes qui sont à l'origine de la douleur. Parce que un des éléments principaux du traitement, ça sera eh bien, de mettre au repos les muscles et les tendons atteints. Et puis, si ça ne suffit pas, évidemment, on pourra utiliser classiquement quelques soins médicaux. Alors, les antalgiques, les anti-inflammatoires, même s'il faut s'en méfier, parce que quelquefois, ça peut masquer la douleur et on peut forcer un petit peu trop. Infiltrer aussi, là aussi, ça peut avoir un effet positif parce que ça soulage, mais en même temps, ça peut fragiliser le tendon, hein, les corticoïdes peuvent faire ça. Et puis, la mésothérapie, qui est à ma préférence, à vrai dire, qui est de fait de poser dans la peau quelques médicaments qui vont aller traiter en profondeur le tendon. Puis, associé à cela, si ça ne suffit pas, il faudra faire de la kinésithérapie, hein, qui sera sur la base d'exercices musculaires, d'étirements, de massages tout profonds pour essayer de travailler ce tendon. Et puis enfin, si ça ne suffit toujours pas, et ça c'est assez rare, c'est moins de 10% des patients, et bien on pourra aller jusqu'à la chirurgie, mais ça c'est vraiment si la douleur est invalidante et persiste plus d'un an.
Alors, pour éviter la récidive, j'imagine qu'adapter son activité sportive ou professionnelle est absolument impératif.
Absolument, c'est la clé. Lorsque le tennis elbow est dû à sa pratique professionnelle, là, l'idée, ça sera justement de mettre du repos, donc ça sera un arrêt de travail. Alors, la durée dépendra ben, d'abord du côté atteint, et puis savoir si vous êtes droitier ou gaucher, et puis le type d'emploi, évidemment, si on porte des charges lourdes, la possibilité d'adapter son poste, puis on peut même avoir à faire appel à son médecin du travail qui peut proposer une adaptation du poste en accord avec l'employeur. Pour les activités sportives, l'idée, ça sera de reprendre très progressivement. Au début du traitement médical, bah, il faut faire des activités qui ne sollicitent pas trop le serrage de la main, le fait de marcher, de courir, de faire de la natation, pourquoi pas même de la musculation, pour peu qu'on ne serre ni poignet ni haltère, et ça c'est formidable, ce sera une très bonne préparation physique. Et puis pour rejouer au tennis, bah, il faudra revoir son placement, changer son cordage, le poids de la raquette, et renoncer éventuellement aux modifications qui ont précédé la blessure, si ça a été le cas. Et puis en général, pour reprendre la compétition, il faudra attendre au moins 4 à 6 mois. C'est rare que ce tennis elbow passe avant. Puis il y a une petite astuce, c'est de mettre un brassard sous le coude, parce que ça va détendre les muscles et réduire les contraintes qui s'appliquent justement sur cette insertion osseuse si douloureuse. Et puis normalement, en suivant tous ces conseils, eh bien, nos auditeurs devraient pouvoir reprendre leur sport préféré.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, hein, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et fabrique Priorité Santé. À Sétou Samaké, Ophélie Lassen et Didier Bleu. Demain, nous parlerons des adolescents désemparés. On se retrouve demain.
et priorité santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.